Bonjour, on avait une question pour toi. Est-ce que selon toi, la culture est politique?
Oui, la culture est politique, tout est politique dans ce monde. C'est important de... Je sais pas ce que je... Oh, vous me prenez
Mais la culture est
de
aussi
court! Un outil de lutte pour justement revendiquer des valeurs politiques. Donc l'utilisation de la culture, notamment de la fête aussi, c'est des manières de revendiquer des droits et de lutter.
Super, je me permets de vous poser une deuxième question. Est-ce que pour vous, faut-il séparer la personne, l'homme, de l'artiste ou non?
Bien sûr que non. On ne sépare pas l'homme de l'artiste parce que... Comment dire? Moi je réponds et toi tu argumentes.
Parce qu'il est porteur évidemment de valeurs et qu'on ne vient pas juste faire une prestation.
Et que l'art est politique. L'art est politique.
Et donc dans tout ce qu'un artiste va créer, il y a ses valeurs et c'est son engagement sur des sujets qui est porté. Donc non, on ne sépare pas l'homme de l'artiste.
Et c'est pour cette raison qu'on est là. Parce que
Pourquoi?
du coup, au niveau de la programmation, genre, on sait que
C'est vrai.
les artistes sont engagés, qu'ils défendent des valeurs que nous, on défend
On défend
aussi.
également.
Et que justement, on sait qu'on n'a pas des gros violeurs ou des grands... Je sais pas. On sait
Enfin, en
pas,
tout
mais en tout
cas,
cas, pour le moment, on espère qu'on n'a pas de
c'est
doute.
pas comme dans
Voilà.
d'autres festivals où
Exactement.
sur l'affiche, on sait qu'il y a des personnes problématiques qui sont pas déprogrammées
Déprogrammées,
ou
ouais.
autres malgré... Malgré qu'on le crie haut et fort, donc oui, ici c'est une safe place.
Et c'est aussi
Exactement.
au-delà de simplement juste défendre des valeurs, c'est que au-delà de ce qui n'est pas dit, c'est que les personnes portent les valeurs haut et fort ici, et que ça soit pour la Palestine ou pour plein d'autres choses, c'est aussi pour ça que c'est top, quoi. Voilà.
Super, un tout grand merci. Bonjour, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites ici, quel est votre rôle ici, de votre stand, dans le village des possibles.
Donc, c'est Laurent du syndicat des Immenses. Nous sommes pour la deuxième année consécutive donc au festival Esperanza, le village des possibles. Nous sommes le syndicat des personnes en non-logement et mal-logement à Bruxelles. Les Immenses et les personnes en non-logement, mal-logement. On est un syndicat hyper actif depuis mars 2019 à Bruxelles. On fait bouger les lignes. On nous connaît fort bien et nous avons plusieurs actions à notre actif. Comme on a peu de temps, je peux les synthétiser de la manière suivante. Ça va vous paraître, surtout aux éditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, le bon sens même. Mais en fait, pour les personnes dans le secteur du sans-chez-soirisme, qui est le nom correct du sans-abrisme, on a inventé beaucoup de mots et corrigé beaucoup de mots au syndicat. En fait, notre essentiel travail est de mettre le logement au centre de la question de l'absence de logement. Parce que vous ne le savez pas si vous n'êtes pas dans le domaine, mais tout dans les textes, dans les lois, dans les ministères, dans les subsides, est basé sur une hypothèse que les personnes en non-logement ou mal-logement n'ont pas de problème de logement, mais ont un problème social santé dont le symptôme est l'absence de logement. Pour dire de la même chose différemment, à Bruxelles, mais c'est la même chose en Wallonie et en Flandre, le secteur du sans-chez-soirisme est un sous-secteur du secteur social santé. Le secteur du logement ne sait pas, mais commence à savoir en grande partie grâce à nous, que la réalité, ça devrait être que le secteur du sans-chez-soirisme doit être un sous-secteur du secteur du logement. Donc on a tout faux, on a tout mal compris, moi le premier. Mais heureusement, il y a des pays, il y en a un seul en Europe, c'est la Finlande, qui vont arriver à bientôt zéro personne sans chez soi, alors que ça explose partout ailleurs, à Bruxelles, mais partout ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en 2008, ils ont compris ce que nous, péniblement, commençons à comprendre. Ils ont renversé la table et ils ont dit, c'est un problème de logement. Nous avons, puisqu'il nous reste très peu de temps, nous avons un programme politique, qui est basé sur notre verdict sociétal, à savoir que le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité. La Finlande le prouve, c'est un choix de société. Notre programme politique, ce sera ma dernière phrase, tient en un mot. C'est le plus court programme politique de l'histoire de l'humanité. Un mot que, bien sûr, nous avons inventé. C'est UDESCIF. Et UDESCIF, c'est le très vague acronyme de universalisation de ce qui fonctionne. UDESCIF. Et qu'est-ce qui fonctionne? Rassurez-vous, c'est deux choses. Pas plus. Tout le reste, on met gentiment à la poubelle. Ou radicalement à la poubelle, si en fait ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Le modèle numéro 1 qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle, on en entend de plus en plus parler dans la presse d'ailleurs, c'est magnifique, le fameux programme Housing First. Ça veut dire le logement d'abord en français, qui marche, c'est-à-dire plus de 90% après 2 ans des personnes dans le programme Housing First sont encore en logement 2 ans après. Donc ça marche. Or, c'est réservé dogmatiquement aujourd'hui aux cas les plus fracassés qui, consécutifs à des longues années sans chez soi, cumulent problèmes de santé mentale et problèmes d'assuétude, et ça marche. La dinguerie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a cet extrême pour les plus fracassés, le programme Housing First. À l'autre extrême, grâce à M. Vladimir Poutine, que nous avons canonisé au syndicat. On dit pas Poutine, on dit Saint-Poutine. Parce qu'il a fait beaucoup de conneries, ce connard. Mais il a fait une chose incroyable. Il a envoyé à Bruxelles, là où nous travaillons, 11 000 personnes sans chez soi. Combien sont à la rue? Zéro. On les appelle communément les réfugiés ukrainiens. Donc ça, c'est pour des personnes comme vous et moi, pas du tout des fracassés. C'est des gens comme vous et moi, en pleine forme, mais qui sont tombés dans le sans-chez-soirisme du jour au lendemain, c'est pas de leur faute. Et on a mis au point un programme en 3 semaines. C'est juste dingue. C'est un miracle incroyable. En 3 semaines, on a mis en place un programme qui revient à dire, pas question de tomber à la rue. Donc, le hasard de l'histoire fait qu'on a aujourd'hui 2 programmes qui marchent, aux 2 extrêmes de l'humanité, pour les plus fracassés, le programme Housing First, pour les pas du tout fracassés, le modèle ukrainien. Il suffit d'universaliser les 2 et tout le monde est relogé. Et c'est la dernière information. Grâce à ça, non seulement on sauve des milliers de vies, mais aussi, et ça intéresse certains, on économiserait pour les finances publiques des centaines de millions d'euros. Je vous donne juste un chiffre en primeur mondiale, c'est pour vous, pour Radio Esperanza, c'est lorsque au SAMU social, c'est le chiffre, je l'ai appris avant-hier, lorsque vous passez 1 mois au SAMU social, qui est juste un grand hébergement de nuit, vous ne dormez toujours jamais seul, etc., etc. C'est même pas, voilà. Vous savez combien vous coûtez, si vous passez 1 mois au SAMU social, vous coûtez à la région bruxelloise 2 318 euros. Ce n'est que la plus grosse des ASBL, il y en a 50 autres à côté. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas tous les mois ces 2 318 euros à chacun des personnes, à chacune des personnes qui fréquentent les SAMU sociales? On ferme les SAMU sociales et tout le monde peut se payer un chouette appartement, même à Bruxelles, avec 2 308 euros. Donc bref, on a tout faux, on a tout mal compris, mais maintenant on n'a plus d'excuses. Parce que on a la théorie, on a les chiffres et on a... heureusement, ce modèle de la Finlande. Donc, chaque fois qu'on nous dit, vous êtes idéaliste, vous ne savez pas, vous comblin, vous êtes naïf. Non, 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 on a la Finlande. Merci de votre attention. On a besoin de votre soutien. Et notre soutien, c'est quoi? C'est pas de l'argent, c'est acheter nos livres et surtout, comprendre que c'est pas une fatalité, que c'est un choix de société. Le sans-chez-soirisme, c'est notre conviction la plus profonde, est au même niveau que l'esclavage, que la pédocriminalité, que les violences sexistes et sexuelles. C'est au même niveau, c'est-à-dire à un moment, la société, dans son ensemble, c'est pas telle ou telle politique, ils sont impuissants, doit dire, maintenant on arrête cette blague, on arrête, ça n'a aucun sens, on arrête et on l'a fait, bien sûr, il y a encore des problèmes, pour l'esclavage, pour la pédocriminalité et pour les violences sexistes et sexuelles, il faudra un jour se lever tous ensemble. Ça prend beaucoup de travail, de plaidoyer, pour qu'on dise, maintenant, on arrête. Quelqu'un qui est sans chez soi, c'est juste pas possible.
Super. Un tout grand merci à vous.
Bonjour.
Petite question pour toi. Est-ce que, selon toi, la culture est politique ?
Tout d'abord, bonjour à toi. Et oui, selon moi, la culture est pleinement et totalement politique. Alors après, avant d'aller plus loin, il y a déjà, je trouve, la question de se poser, mais c'est quoi la culture ? La culture, elle peut être énormément de choses. Souvent, on a l'idée de la culture en tant qu'art. Mais la culture, c'est pas que ça, c'est aussi simplement ce qui va nous rassembler, là où on va trouver des points de communion, de convergence, et ce qui fait lien et reliance. Et pour moi, nous sommes tous citoyens du monde, et je pense à la politique au sens de polis, initialement, qui est quand même être citoyen dans la cité grecque. Et donc, pour moi, de manière intrinsèque, la culture est politique. Nous sommes un et nous sommes plusieurs. Et en tant que tel, mais oui, nous sommes pleinement là et on peut après faire un pas de plus pour être engagé et aller au-delà d'eux. Et créer des ponts, créer des possibles. Et Dieu, que ça fait du bien aujourd'hui. Mais de se dire que la culture est pleinement politique et de s'engager dedans de manière sérieuse, de manière tendre, avec de l'humour, avec des paillettes, avec des licornes. Parce qu'en tout cas, moi personnellement, j'ai besoin de rêver aujourd'hui face à l'inacceptable qui est en train de se passer. Et voilà. Et je ne sais pas si vous allez faire passer ça, mais en grand élan de cœur et d'ardeur à tout le monde, faisons culture, soyons ensemble, rassemblons-nous. Et posons une voix calme, ferme, déterminée, avec amour, tendresse et humour, pour dire non face à ce qui se passe, et pour dire oui pour protéger le vivant.
Super, merci. J'en profite pour te poser une autre question, tant qu'on est là, si c'est bon pour toi. En cette période post-festival, la radio se posait une question. Est-ce qu'il faut séparer l'homme, la personne, de l'artiste ?
Oh, ça c'est un vaste sujet de réflexion. Merci beaucoup pour la question. Moi, il y a d'autres questions qui me viennent en fait comme réponse, qui est quelle est l'intention derrière en fait. Pourquoi est-ce que ça serait bon et vers quoi on veut tendre si on sépare l'homme ou la femme, de l'artiste. Et pourquoi ça serait bon de les faire se converger? Et je crois qu'en fait, c'est une question qui demande beaucoup de délicatesse, tu vois, de la broderie comme de la dentelle. Il y a des artistes, des personnes en tout cas artistes qui font des choses merveilleuses en termes de création et qui pourtant humainement font des choses inacceptables et horribles. Voilà, petite référence au MeToo notamment qui a permis une libération de la parole. Donc je pense que c'est vraiment complexe. Je crois que ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir un regard lucide sur les choses et de se dire que on peut créer quelque chose de beau, on peut être touché par une création et s'arrêter à ça. Mais on peut aussi aller au-delà et se demander qui a créé ça, dans quel contexte et qu'est-ce que cette personne pose comme acte au jour le jour ou ne pose pas comme acte aussi au jour le jour. Et finalement, je crois qu'en fin de compte, ce qui me vient en tout cas pour clore, et c'est pas du tout clore, mais plutôt pour ouvrir encore plus la discussion, c'est la question de la congruence. En fin de compte, que raconte une œuvre quand derrière la personne qui a créé ça est dans des actions en agir et des paroles qui vont à l'encontre de cette œuvre ou en tout cas qui ne prennent pas soin du vivant, de l'humain et de la nature. Voilà, donc que des questions en fait. Ta question n'ouvre qu'à des questions, mais c'est important de se poser cette question, de réfléchir ensemble et de peut-être accepter qu'il n'y a pas de réponse, mais qu'on peut avancer ensemble vers ce chemin de la réponse.
Super, un tout grand merci à toi pour cet entretien.
Radio Esperanza.